Bonjour à tous, en ce moment je tente de diversifier mes activités et pour pouvoir organiser tranquillement ma compétition de bingo à l'EHPAD de Trouville-sur-Mer, je vous propose en toute discrétion de réécouter le meilleur de Pop Pop Pop. Aujourd'hui dans mon mixeur de pop culture, tout le groupe Canine qui sera en live en fin d'émission. Mais avant ça, retrouvons Alexandre Astier, Louis Clichy et ma Josette. Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. C'est jour de fête, nous recevons José Garcia, un homme profondément aimable, un merveilleux acteur, un partenaire de jeu, comme on en fait peu, mais aussi, parce que quand même on n'est pas chez les bisounours, un caractère bien trempé. Tiens, par exemple, vous le savez, vous qui écoutez l'émission tous les jours, nous célébrons en ce moment la réédition du White Album des Beatles à l'occasion de son 50e anniversaire. On a donc tous décidé de s'habiller en blanc pour la circonstance. Et quand j'en ai averti José, il m'a aussitôt répondu par texto « Moi, les Beatles, je les encule, je suis Rolling Stones ». Résultat des courses, il n'est pas en blanc mais en noir, par pur esprit de contradiction. Bon, c'est pas très grave, on fait de la radio, même si vous pouvez voir la vidéo de l'émission sur le site franceinter.fr. Et puis il n'est pas venu parler des Beatles, qui l'enculent donc, mais de Lola et de ses frères, le film de Jean-Paul Rouve, dans lequel il joue un personnage heureusement beaucoup plus en nuance. Car oui, rappelons-le, une fois encore, José Garcia, en dépit de tous ses défauts et de ses goûts musicaux discutables, est un merveilleux acteur. Et c'est ce José-là qui est aujourd'hui l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour José.
Bonjour Antoine. Ça va ? Je suis très content de commencer avec ce petit prélude. Moi, l'invité, c'est un kizam. Moi, je
commence
à faire plein de
nouveaux
amis.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. À mes côtés. À mes côtés, Charline Roux, tout de blanc vêtu. Bonjour Charline, ça fait du bien une petite lessive.
Tout à fait,
de temps
Antoine.
En temps.
Bonjour Antoine. Bonjour José.
José Garcia, je reviens quand même sur ce texto que vous m'avez envoyé avant-hier. Je cite à nouveau, hein, moi les Beatles, je les encule. Je suis Rolling Stones. C'est également une déclaration que vous avez faite au monde diplomatique le 19 juin 2004. Vous avez de la suite dans les idées, en fait. Hein? Parce que, José, vous avez conscience que nous sommes sur...
France Inter.
Oui, absolument, oui. Une radio dans les
coudes, une qualité d'écoute. C'est quoi cette voix de merde, là? J'ai l'impression qu'on a un problème de micro. Pouvez-vous décaler un tout petit peu?
Un tout petit
voilà,
peu?
Sur ce micro. C'est bon. Ça va beaucoup mieux.
C'est bon.
José Garcia.
José. Vous êtes en train de me niquer là. Vous êtes en train de me foutre une énorme non, je suis sûr. Oh putain, il n'y a pas de retour, ça c'est mauvais signe.
José, c'est bon, on peut mettre le casque. José, ici il existe une question qui pique.
Mais je ne m'entends pas tant qu'il y a rien.
Alors faut mettre un peu le son. Une question qui pique encore plus que de l'eau de vie monacale. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Parmi mes préférées, il y a celle de Robert De Niro. Écoutez.
Are you talking to me?
Vous savez, ce n'est pas évident de définir cette pop culture au sens noble du terme. Je dirais que c'est une culture qui est d'abord née dans la rue. Et j'ai envie de dire que c'est une culture qui est née dans la marge et qui arrive au centre.
Et pour vous, José Garcia, c'est quoi la pop culture?
Je dirais comme mon ami, vous voulez que je le dise en anglais? I fuck the Beatles.
C'est beaucoup d'amour pour les Beatles, nous.
Écoutez, les Beatles, bien sûr.
Pour moi, la pop culture, c'est un mix de beaucoup de choses, en fait. C'est un joli mix. D'abord, le mot pop, je trouve ça assez extraordinaire, quoi. Il y a quelque chose de festif. Mm-hmm. Bon, c'est un mix de beaucoup, ça peut être de l'art, de la peinture, des affiches de cinéma. Moi, je sais que je sais pas pourquoi, mais quand je pense à pop culture, je pense toujours à, soit à Warhol, soit à la Black Exploitation. Je trouve que c'est un symbole. Je crois que c'est là que ça a commencé à avoir cette espèce de culture de la rue. Mais les graffeurs font aussi de la pop culture.
C'est
la poésie de la rue, je crois.
Ok, ça me va très bien, c'est la poésie de la rue.
Voilà.
Je prends. Ça va, José, ça se passe bien?
Ça se passe super bien, oui.
José, d'abord, je m'excuse parce que c'est vrai qu'on a un peu traficoté le début de l'émission.
Oui, ouais, non, je sais, ouais, je sais, j'ai bien compris. Dès que j'ai senti que dans le casque, il n'y avait pas de retour.
Vous voulez entendre ce que ça donnait?
Oui, je veux bien, oui.
Écoutez. Ah, c'est sûr que ça enlève d'un seul coup un peu de dignité, un peu de... Hein.
Bah oui, mais bon, non, j'ai l'habitude. Hein, je savais qu'il y avait un truc pour une fois déjà que je prends pas de la peinture ou un machin. Je préfère déjà la radio, c'est déjà un petit peu plus safe.
La pop et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un extrait de l'album posthume d'Alain Bachung.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit, je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé.
Les Salines, Alain Bachung, cet extrait de l'album En Amont. En Amont, c'est le titre de l'album. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de celui qui a doublé Rocco au cinéma. Prétentieux. Enfin, Rocco, le personnage du Yubi, le petit pingouin. Mais qui est-il? Réponse avec son pop-portrait. Alors, votre pop-portrait, José, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop-pop-pop-pop.
Et c'est signé Charline...
José Garcia, je m'engage ici solennellement à ne baser ce portrait sur aucune info donnée par l'individu assis ici même au centre du studio. Enfin bon. Aujourd'hui donc, nous recevons un comédien dont on se dit que si vous ne connaissez aucun de ses alias télé et ciné, c'est que vous vivez probablement coupé du monde depuis les années 90. Vous êtes donc soit décédé, soit Jacques Séguéla. Aujourd'hui, nous recevons Cindy Trofort, Robert De Niro, Claudia Chiffon, mais aussi Serge Benamou, Melorda Silva, Caniveau, désolé c'est contractuel,
ouais, oui, je sais. De lui.
Le Turc, John, Serge Benamou, Couvert de pus. Minor, Louis XIV, Serge Benamou, ou encore le commissaire Adamsberg de Pars vite et revient tard, et évidemment le Bruno Davert du couperet. Antoine m'a aussi dit que vous aviez joué dans le ruban blanc d'Anneke, mais j'ai l'impression qu'ils ne vous ont pas crédité sur le... Bref, nous recevons un comédien remarquable et que j'aime beaucoup, et je m'engage, moi, à ne pas le maltraiter.
Mais personne ne sera maltraité dans cette émission, et en plus, c'est vraiment pas mon genre.
Non, rouler dans la farine.
Ouais. Bah non, c'est vrai. Quoi ? Bon, José, comme vous avez doublé Rocco au ciné, continuons à parler de films de culte, c'est l'heure de votre pop-list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un film, une musique, une série culte. Vous avez choisi comme livre un livre d'entretien. Je parle bien sûr pas d'entretien de moteur ou de tondeuse, mais de conversation avec une de vos idoles absolues, Al Pacino. Qui a conversé avec Al Pacino, Pat Charlene?
Lawrence Grobel, un grand journaliste collaborateur notamment du New York Times et de Rolling Stone, un excellent intervieweur. Il a aussi publié The Art of the Interview et d'autres livres d'entretien avec Marlon Brando et Truman Capote.
D'accord. José, pourriez-vous nous lire un petit extrait comme ça au déboté de ces entretiens?
Écoutez, je l'ai pris comme ça au hasard. Il y a plein de choses. En fait, c'est des entretiens sur plusieurs années. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que c'est presque la vie, enfin, la plus grande partie des films et de la carrière d'Al Pacino. Et on voit surtout tous les doutes, les troubles. Mm-hmm. On voit qu'en fait, c'est ce qui est le plus touchant, c'est qu'au moment où on croit qu'il est au max de sa gloire... Mm-hmm. Bon, en fait, il est dans un doute terrible. Il n'a pas travaillé pendant des années. Il a eu des moments. Et là, je suis tombé juste comme ça tout à l'heure. J'avais, tu penses que tu donnerais quoi dans une comédie? Tu l'ignores, mais c'est ce que je faisais en 1968. J'écrivais des comédies. J'ai monté et joué dans des revues que j'écrivais, dans des cafés, des lieux. En gros, je passais mon temps à faire de la comédie. Mais il se passe un truc étrange qui me chiffonne d'ailleurs. Ça m'échappe. Ils commandent des sondages et font réellement ça dans les universités. Ils demandent aux gens ce qu'ils veulent voir. Apparemment, les gens ne veulent pas me voir dans des comédies. C'est marrant, non?
Ouais.
De voir, en fait, je me rends compte à quel point, quand on fait de la comédie, on a plus de chances de pouvoir faire des films sérieux.
Ouais.
Alors que l'inverse, c'est très difficile. Ouais. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des films d'auteur, qui adoreraient faire de la comédie, mais on leur donne absolument aucun crédit. Mmh. Donc voilà, bah, c'est un très joli bouquin qui exprime, qui raconte surtout tous les doutes, tous les moments de déboire, tous les moments où l'on tombe. Parce qu'en fait, quand on est acteur, on prend plus de coups que...
Ouais, ouais. C'est qu'on a réussi de... un livre que vous conseillez à tous les acteurs qui nous écoutent.
C'est très intéressant, ouais, de voir le doute d'un type comme Al Pacino, parce que c'est ce qu'il a construit. Il n'a pas eu la chance d'avoir comme De Niro un metteur en scène avec, ouais, qui il a fait un bout de chemin. Mmh. Et je trouve qu'il s'est bonifié encore plus qu'un monstre sacré comme De Niro. Mmh. Parce qu'en fait, De Niro, une fois qu'il n'était plus avec Scorsese, il a dû se débrouiller tout seul et plus difficile. Voilà.
Bien, les entretiens d'Al Pacino, c'est édité chez Sonatine. Ensuite, pour la série, vous avez choisi Peaky Blinders de Steven Knight. 4 saisons, 24 épisodes, diffusés depuis septembre 2013 sur la BBC 2. Charline, c'est quoi cette histoire de voyous à casquette?
Les Peaky Blinders, un groupe de criminels sévissant à Birmingham à la fin du 19e, un gang mené par Thomas Shelby, incarné dans la série par le génial Killian Murphy.
We're Peaky Blinders. We're not scared of coppers.
We will rid this city of his kind. Justice will be done.
If you want to be part of my organization, you have to make sacrifices. I'm a businessman. I want to make my business successful. From now on, you do it my way.
Et vous, José Garcia, qu'est-ce que vous cachez sous votre casquette? Pourquoi elle vous plaît tant, cette série Peaky Blinders?
Elle me plaît parce que je trouve que la période choisie, juste après la guerre de 14, où des types ont connu vraiment les atrocités, ceux qui en sont revenus étaient des héros, Et je pense que, et je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est le moment, si vous voulez, où des types avaient une espèce de violence en eux, ils avaient connu les atrocités de la guerre. Et cette période, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'après, elle est développée. C'est-à-dire que la première série commence avec l'IRA. Voilà la création de l'IRA et comment les Anglais essayent de prendre de la mafia, donc les Peaky Blinders, pour essayer de déstabiliser l'IRA. Après, il y a toute la partie des Russes blancs. Enfin, c'est une période très très forte entre deux guerres. Et je trouve qu'il y a une série de personnages qui sont extraordinaires et qui en même temps ont tous les doutes. C'est-à-dire que c'est vraiment une série, je trouve, très très traitée, en plus très très rock, quoi. Très les mecs se défoncent. Après, on sent qu'il y a. En fait, c'est l'apparition de toutes les dopes. C'est-à-dire que les types, pour sauver de la pénicilline, de la peur, ils ont creusé des tranchées. Donc je trouve que c'est absolument magique d'avoir traité ce moment-là pour traiter la pègre. Et c'est formidable de travailler sur cette partie de Londres qui est encore dans... Il y a un traitement visuel qui est extraordinaire. Il y a la partie où il y a les Juifs. Après, il y a la partie italienne. Et franchement, c'est un travail remarquable.
Peaky Blinders. Confirmé, ouais. Charline ?
J'adore cette série.
Ben voilà. Vous auriez pu le dire dès le départ.
Moi, je le dis maintenant. Bon. Je ne prends la parole que quand on me la donne, Antoine.
Oh là là là, comment elles sont. Pour le film José Garcia, vous choisissez Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, sorti en 1984 avec, bien sûr, votre très cher Robert De Niro. À noter, Charline, que le film avait changé de titre pour sa sortie belge. C'était devenu Il était en Amérique une fois.
Ah, je n'avais pas cette info, Antoine.
Si, je la donne.
Il était une fois en Amérique, la vie de Noodles dans le Lower East Side, de son adolescence en 1922, où il côtoie le milieu des petits voyous à l'âge adulte en 33 et à sa vieillesse en 1968.
Arnon Milchan presents a Sergio Leone film starring Robert De Niro. Once upon a time in America, the story of friends. As boys, they made a pact to share their fortunes.
Agreed.
Their loves and their lives.
You'll put up and you'll shut up. You hear nothing and you see nothing. Just like you did for Bugsy.
You was better off you stayed in the Bronx.
As men, they shared a dream to rise together from poverty to power.
Once Upon a Time in America de Sergio Leone. Alors pourquoi ça c'est votre film ultime, José Garcia ?
Je crois que c'est une des dernières sagas au cinéma, en fait. Il est vraiment en trois parties, ce film, et les ados qui jouent au départ sont extrêmement émouvants, extrêmement touchants. Après la partie et puis c'est l'histoire d'une trahison. Il y a vraiment plusieurs histoires en une. Je trouve que c'est un film remarquable, extraordinaire. Et la musique de
Morricone.
De Morricone, c'est une des musiques moi qui me, je sais pas. Ce type a un sens pour réveiller en moi. Je suis pas nostalgique, mais c'est marrant quand j'écoute de la musique de Ennio Morricone, j'ai l'impression de voir défiler ma vie. Et c'est extraordinaire d'arriver à, enfin en tout cas moi, c'est personnel, hein, d'arriver à cette humanité en fait avec la musique, d'arriver. Et là, la musique de Ennio Morricone vient amener tout le. Je sais pas d'ailleurs comment on arrive à interpréter ça. C'est-à-dire que on voit De Niro qui est vraiment abîmé par la vie, il se rappelle, il a des souvenirs. Après, il y a une scène, alors j'ai appris, parce que la scène de fin, il va fumer de l'opium, en fait, dans un... Voilà, et on le voit, il se jette comme ça, et puis la scène de fin, c'est une image qui se fixe sur ses yeux. Et moi, en tant qu'acteur, je me suis dit, merde, mais comment il a fait ça ? Parce qu'on voit qu'il est complètement pulvérisé, et donc je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment il fait ça ? Et nous, comme généralement... Évidemment, on peut pas se bourrer le matin parce que l'après-midi, souvent, on enterre la grand-mère ou on fait un autre travail. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit, qui faisait partie de la deuxième équipe. Mais rien. En fait, ils ont fait comme à l'américaine. C'est-à-dire que le truc qu'on pourra jamais faire, nous, on sait pas ce qu'il a pris. Il s'est mis une charge monumentale dans sa loge. Ils l'ont sorti. Il tenait à peine debout. Il est venu, il a joué la scène et puis il est rentré. Voilà. C'est la différence entre les Américains et nous, c'est que nous, on est obligés d'aller à la cantine.
Puisque vous en étiez à la musique, je vous ai demandé de choisir une chanson. Alors là, évidemment, vous ne choisissez certainement pas les Beatles, puisque je le rappelle, vous les enculez. Mais là, laissez-moi vous dire que vous ne vous êtes pas foulé, mon cher José, parce que c'est la BO du même film. Il était une fois en Amérique, composé donc par Ennio Morricone. C'est ça, votre musique préférée?
Le morceau central, le morceau qui est récurrent et tout me bouleverse.
Vous aimez la flûte de Pan?
Ah non, c'est pas la flûte de pan, non, c'est pas ce morceau-là. Hein,
non,
c'est
non,
le...
non. Ouais.
Mais oui, c'est ça. J'aime bien la flûte de pan, j'ai un petit côté satire. J'ai une nostalgie, l'envie de courir derrière des petites biches.
Donc Ennio Morricone, voilà. Musique définitive pour José Garcia.
Je trouve ça magnifique d'avoir... En fait, tous les grands films sont accompagnés de grands, ouais. De grandes orchestrations. Enfin, j'aime aussi Out of Africa, mais c'est marrant. Dès que vous passez des morceaux comme ça, c'est quand même magique, quoi. Vous revoyez les images et puis elles s'adaptent exactement aux... Ouais, je pense que tous les grands films sont bien accompagnés, en tout cas musicalement.
Alors, je résume la popliste de José Garcia, Al Pacino, les Beatles, Peaky Blinders, Il était une fois en Amérique, et Il était une fois en Amérique. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Once upon a time in America.
Mais il se passe un truc étrange, qui me chiffonne d'ailleurs.
Justice will be done.
You was better off just staying in the Bronx.
We're picky blondes.
They shared a dream to rise together from poverty to power.
Apparemment, les gens ne veulent pas me voir dans des comédies.
Voilà un petit détour par la tête de José Garcia.
Joli mix.
Vous vous y retrouvez ?
Ouais.
Ouais. C'était Pacino hein, que vous citiez en disant apparemment les gens ne veulent pas voir dans des comédies.
Non, moi ça va encore pour l'instant. Bon.
Avant de parler d'Astérix dans la suite de Pop, écoutons un morceau sur lequel Alain Chabat a fait danser le gros moustachu et le petit nerveux Snoop Dogg, Mission Cléopâtre, featuring Jamel Debbouze.
Yeah. Believe it. J-A-M-E-L with the big D-O-double-G. D-A-Z. D-P-G. Family. Ooh-wee. Yeah, yeah. You say you wanna party with us? Well, come on, baby, let me see you get up and quit playing and do what I'm saying. We got a whole lot of food if you plan on staying. We all the same, no matter where you at in the family or the ghetto. We keep the hot metal, settle down and pass it around. Cause we having a good time while I'm in y'all town. Franchising with french fries with french thighs. D-O-double-G and I'ma do it to you 10 times. Fliz I, is I, whiz I, Operation Cleopatra. Coming right at ya, J. A-M-E-L. I'm trying to holler at you, homie, pick up your cell. D-P-G, hell yeah, I got some suckers on my tail. Could you make a bell?
Ça fait plaisir.
We're gonna party. Boom. Let's get the party started.
Hey, j'ai piqué où?
We're gonna party.
We're gonna shake it up.
Film the weed. وحق الله العظيم ودير موكب حميد حميد لا ويد تي سويت تي سويت لا ويد تي سويت تو لي جور يا لي جون كي مينير ستوبي مون ايمري بيان لي فور افيك مينير مي با لا بين تي فيني سو سوار اون فاس لا فير
تشيك اس اوت جيتش
وي غون باي جيتش
You know what I'm saying? Don't jump out.
Check us out.
Yeah.
Big Snoopy, Deagle, Double Jizzle.
Church.
Mission Cléopatra, Snoop Dogg featuring Jamel Debbouze, c'est pop, c'est improbable, c'est donc dans Pop 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 et c'était sur la BO du film Astérix Mission Cléopâtre réalisé par Alain Chabat. Nous sommes toujours en compagnie de... d'Alexandre Astier.
Ben oui, ben oui, il faut faites pas la gueule. On a dit qu'on le faisait. Faites pas la gueule.
On a dit qu'on le faisait, on le fait. Voilà. Voilà. Et aussi de Louis Clichy, direction tout de suite un village peuplé d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bande annonce.
Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique.
Quoi ?
Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier.
Quoi ?
Catastrophe, Obélix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ?
Panoramix.
Astérix, le secret de la potion magique, ça sort demain. C'est l'histoire de Panoramix, donc, qui, après une chute lors de la cueillette du Guy, décide qu'il est temps de trouver un nouveau druide. Avec Obélix et Astérix, il va donc tenter de faire comme dans The Voice, trouver le candidat qu'il veut dans son équipe et lui dire, comme Jennifer...
Je te veux dans mon équipe.
Et ainsi transmettre à ce jeune talent le secret de la potion magique, c'est bien cela ?
Ouais, sauf que nous, on met pas l'accent sur le mot « vœu ». Parce que c'est pas là qu'il faut le mettre, normalement. Qui c'est qui a dit ça ?
Qui c'est qui a dit ça ?
Là, je te veux dans mon équipe.
Jennifer.
Mais qu'elle met pas l'accent sur le « vœu », vous pouvez lui transmettre ça.
Est-ce qu'on peut le réécouter ?
Je te veux dans mon équipe.
Ça n'a aucun sens. En direction d'acteur, ça n'a aucun sens.
On le met où, alors, du coup, l'accent ?
Bah, vous voulez,
Je te veux dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe.
Je peux réécouter quand même, parce que j'ai un doute.
Je te veux dans mon équipe.
C'est vrai que le « vœu » est un petit peu...
Non, ça va pas.
Bon.
On enchaîne ?
Oui.
On enchaîne. C'est une première pour Astérix au ciné. Ce n'est pas l'adaptation d'une des bandes dessinées, mais une histoire originale. Mais pourquoi donc par Toutatis ?
C'est faux.
Comment ça, c'est faux ?
Ah ben non,
ça,
il y a les 12 travaux d'Astérix qui étaient la première...
C'était pas adapté d'une bande dessinée ?
Non.
Non.
Alors après, elle a été réalisée par les,
Auteurs, originaux,
c'est sûr.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est...
On fait moins ça maligne, Charline Roux, là.
Ça m'a bien calmé. Tout ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais me taire.
Il y a un album qui existe, mais il est tiré des dessins animés.
Mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi une histoire originale ?
Pourquoi pas, déjà ? Et puis, pourquoi une histoire originale ? On a déjà fait Le Domaine des Dieux ensemble avec Louis, une adaptation d'un très bel album des auteurs originaux. Et puis là, il s'agissait d'en faire un second, et ben, parce qu'on est des genres de challenge, peut-être. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est le truc plus dur que ça ? Allez-y, filez-nous des trucs, du fil à retordre. On va pas s'endormir sur nos lauriers, c'est le cas de le dire. Et voilà, histoire originale.
Le ciel est la limite.
Finalement, oui. Finalement, oui.
Ça, c'est pareil, c'était pas dans les BD originales. Mais Louis, l'idée d'animer une histoire non développée en bande dessinée, quand il s'agit d'un personnage comme Astérix, est-ce que c'est excitant ou super flippant ?
Non, c'est excitant parce que moi, j'ai en plus connu les personnages par l'animation. Je connaissais pas tellement la BD et c'est après coup, dans un dernier temps, je suis venu sur la BD. Mais je connaissais vraiment, effectivement, justement, les 12 travaux d'Astérix, c'est pour ça que j'étais bien au courant de l'affaire. Non, en fait, c'est pas si dur parce que Uderzo, c'est un super dessinateur qui avait une grande admiration pour Disney et qui voulait faire lui-même de l'animation avant de faire de la BD. Et du coup, il dessine vraiment un dessin en relief sans triche, qui permet de vraiment l'animer facilement. Et la 3D s'y prête plutôt bien. Donc ça, alors si je dis pas que ça a été facile, on a essuyé les plates, surtout sur le premier film. Là, le deuxième, on est un peu plus aguerri. On avait des nouveaux persos, certes, mais on avait nos personnages principaux déjà tout prêts. Mais voilà, voilà. Et après, il faut trouver des bons animateurs, parce que ça, c'est pas évident. Sur les belles voix enregistrées essentiellement par Alexandre Astier, puisque nous faisons les voix, et c'est les voix qui vont guider l'animation.
Alors le premier c'était Le Domaine des Dieux, c'était il y a 4 ans, près de 3 millions d'entrées. Mais moi je pose la question différemment, est-ce que c'est pas un peu stressant de s'attaquer à nouveau à un tel monument de la pop culture ? Attendez, je pose mon stéthoscope sur vous, je vous écoute.
Non, je crois pas.
Ah, c'est Alexandre qui répond finalement.
Il ne semble pas, non.
Enfin, c'était pour moi, ça m'était destiné. On m'a pas fait un signal. Non, c'est pas stressant parce que si on commence à stresser là-dessus, je pense qu'on arriverait à être absolument pas créatif. Donc on oublie que c'est stressant et on avance.
Alexandre, je déplace mon stéthoscope sur votre petit cœur à vous.
Il a plus peur.
Non, alors peut-être que... Non, mais c'est très émouvant d'avoir le droit de raconter une histoire de plus au panthéon d'un truc comme ça.
tu mets ta brique sur un mur, normalement, t'as pas le droit d'y aller, quoi. Donc, avant tout, je suis très fier qu'on ait pu faire ça. Et quand on aime ça depuis qu'on est très petit, je pense qu'on fait moins de bêtises quand même. Quand on a bouffé du Astérix tout petit, c'est quand même difficile de venir raconter complètement n'importe quoi sur ce monde-là, je crois.
Bon, je retire mon stéthoscope. Panoramix a passé largement l'âge de grimper aux arbres, surtout pour aller cueillir du gui. Gui d'ailleurs, comme le nom du film d'Alex Lutz qui double Téléphérix, comme quoi tout se recoupe.
Tout est étudié.
C'est très dingue. D'ailleurs, le vieillissement, c'est justement l'objet de ce nouvel opus. Et c'est rare dans le monde de la BD, hein, car dans ce monde merveilleux, bah, Titeuf a toujours 7 ans, Gaston Lagaffe plus ou moins 20, et Ariel Dombal 32. Ça veut donc dire qu'on peut donc vieillir dans la pop culture?
Déjà, il vieillit pas. Il évoque sa vieillesse. Mm-hmm. C'est pas tout à fait pareil. Mm-hmm. Nous rendons la licence comme nous l'avons trouvée. Mm-hmm. Aussi propre que quand on l'a
trouvée. Il n'avait jamais évoqué avant sa vieillesse.
C'est non, ni sa jeunesse. La jeunesse, si, la jeunesse d'Astérix, c'est Obélix. Il a fait un album où on les voit plus petits, tout ça. Donc mais bon, c'est vrai que c'est pas la tradition. Non, la tradition, c'est qu'il y a pas de futur, pas de passé, et que tout ça se passe à la même période.
Mais surtout, si les éléments de pop culture peuvent vieillir, comment on explique physiquement la personne qui est assise ici? C'est quand même très mystérieux, non?
C'est-à-dire
Antoine de Caunes.
Antoine de Caunes, ouais. Vous voulez dire la personne française qui ne vieillit jamais, voilà, et qui agace tout un chacun?
Ouais. Bon, c'est quoi la suite? Obélix qui règle son sonotone au son du bruit que font les Romains quand ils tapent dessus, le chef du village qui se sert de son monte-escalier Stana pour voir si les ennemis arrivent, c'est quoi la prochaine étape?
Vous voulez la prochaine connerie?
Non mais oui, enfin si on commence à vieillir nos héros.
Gaston Lagaffe, vous avez dit qu'il avait quel âge?
Une bonne vingtaine. Bah, il travaille dans un bureau, une vingtaine.
Une vingtaine, ouais, enfin, il a pas un poste mortel dans le bureau, effectivement, c'est pas un... Ouais. Ben voyez, je me suis jamais posé la question, ça fait quoi Gaston Lagaffe vieux?
J'imagine pas.
Non, moi non plus.
Bon, vous avez répondu à ma question. Voilà.
Qui dit héros assez super, et c'est le cas de cela, dit forcément antagoniste à la hauteur, et cette fois les romans ne sont pas les méchants du premier plan. Comment est-ce qu'est né Sulfurix, histoire et physique, j'entends?
Alors, physique, je laisse mon camarade répondre.
Bah après coup, vas-y.
Ce méchant, c'est celui qui m'a fait envie tout de suite, parce que en fait, ce film coince Panoramix dans une période où on lui demande depuis des dizaines d'années de faire une seule potion, toujours la même. Et j'avais envie de le mettre au défi d'un druide, d'un vieux rival, qui lui n'a aucune obligation, est très bon, très doué, probablement presque plus que lui, si on peut dire une chose pareille, et que ça oblige Panoramix à sortir de sa potion magique et d'aller plus loin, de remettre son titre en jeu, de réinventer, de réimproviser quelque chose. Donc mon méchant, il est méchant, il a de la revanche, il a de la rancœur et il est très doué. Voilà.
Il est très méchant.
Oui,
c'est ça qui est bien.
Oui. Et du coup, ça se voit aussi visuellement. On l'a fait méchant. Alors, on s'est un peu inspiré du Devin, effectivement. Enfin, si on n'est pas inspiré, c'est vrai que on a dessiné quelques crobards, et puis très vite, on s'est aperçu que ça collait à ça, parce qu'il fallait une prestance, mais en même temps, quelqu'un qui vivait un peu en autarcie, comme un ermite. Donc, la peau de bête s'y prêtait bien. Et puis voilà.
Il est maigre, il est très maigre.
Il est très, très maigre, mais osseux et assez musclé. On le voit parce qu'il se dévêtit dans la deuxième partie du film.
Oui, il ne révélait pas tout.
Teaser.
Voilà. Il ne fait pas tout tomber, contrairement à d'autres personnages mythiques du film. Mais voilà. Donc, on a fait assez sec et assez flippant. Oui, il a une silhouette qui marche bien, je pense.
À travers Panoramix, c'est aussi à la notion de transmission. Vous vous intéressez avec ce nouvel épisode. La transmission, c'est un peu un genre d'obsession chez vous, Alexandre Astier, ou bien c'est moi qui m'abuse?
Non, mais c'est pas prévu, c'est pas organisé. Je m'en rends compte après coup qu'effectivement ça parle un peu toujours de ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, accrochez-vous un peu à vos slibards parce qu'il y a de la phrase là. Qu'est-ce que c'est d'autre que la pop culture sinon la transmission?
God.
C'est tout, ça s'arrête.
Ah, c'est tout.
Là, normalement, il faut balancer un truc de Gold, il faut faire quelque chose. Mais
là, on peut relâcher le
chanter.
Ah oui, non, détendez-vous, voilà. Après, je peux vous la refaire si vous voulez.
Avec une autre intention de jouer,
oui, c'est possible. Avec le mot vœu dedans.
Avec le mot
vœu.
Pourquoi vœu?
Avec un accent sur vœu.
Alors, bougez pas.
Je te veux dans mon équipe.
Ah, celui-là.
Ah oui.
Ah, non, c'est dur. Alors, c'était quoi ma phrase?
Donc, je sais plus. Qu'est-ce que la pop culture si ce n'est la transmission?
Qu'est-ce que la pop culture si ce n'est la transmission vœu?
Ah, c'est bien.
C'est mieux déjà.
Ouais. L'un des personnages les plus malins de ce nouvel épisode est une petite fille. Les héroïnes sont rares dans ce monde moustachu et testostéroné. Pectine, c'est un moyen de ramener des problématiques moins gauloises et plus actuelles dans l'histoire?
Alors, dans Astérix, les femmes sont testostéronées aussi. Hein. Alors,
oui,
vous pouvez vous faire conclure peut-être par c'est comme s'il n'y avait pas de femmes, en gros. Mais quand même, elles sont là et elles ont la pêche et généralement, elles ont même le commandement, même si c'est en second plan. Mmh. Après, Pectine, effectivement, c'est un personnage, un vrai personnage féminin, un petit peu inspiré de mes petites filles. Peut-être que oui. Louis aussi a une petite fille, peut-être
oui,
que ça
non,
lui parle.
Maintenant, ça collerait, mais quand on a commencé le projet, elle était toute petite. Mais effectivement, on avait fait un petit garçon sur le premier film. Mais là, ça valait vraiment le coup de switcher. Bon, après, il ne faut pas trop en raconter, mais elle était intéressante à faire. Et puis voilà, elle a un petit côté aussi. Je reviens sur Miyazaki, mais j'y pensais quand je faisais le design. Petite fille un peu espiègle, il y a un peu du Chihiro là-dedans, peut-être.
Et alors, point moustache, Louis Clichy, il paraît que le plus difficile à animer dans les films, ce sont les cheveux et les poils. Les irréductibles vous ont-ils donné du coup du fil à retordre ?
Alors, c'est pas le plus dur à animer, mais c'est vrai que tout ce qui est organique, comme le cheveu, comme le poil, toutes ces choses-là, nous ramène tout de suite à des choses très réalistes et du coup, bizarrement assez vilaines pour un film d'animation qui veut être une interprétation de du dessin du Derzo. Donc, c'est vrai que c'est du fil à retordre parce que techniquement, tout nous ramène vers du réalisme, il faut toujours lutter contre ça. Et souvent, il y a des graphistes qui sont très contents quand ça brille, quand c'est gominé, quand c'est chouette. Et alors, je leur dis non, il faut ramener du dessin, il faut ramener des choses chatoyantes et simples. Donc, effectivement, c'était dur. Le poil de Sulfurix, il a un poil que j'ai voulu un peu, je sais pas, crade.
Comme certains
cheveux pas du tout lavés pendant quelques semaines.
Un petit peu. Regardant, merci.
Derzo qui a assisté à la projection, qui a vu le film, qui l'a validé.
Oui.
Non, mais c'est capital quand même.
C'est capital. C'est capital, puis c'est très...
On aurait été dans la merde s'il ne l'avait pas...
je veux dire, ça aurait été très dur qu'il n'aime pas. Mm-hmm. C'est un grand soulagement. Parce que, effectivement, il est venu, il est très sensible au travail de Louis, au travail du graphisme, parce que c'est quelqu'un qui adore le dessin et qui, comme l'a dit Louis, a toujours rêvé d'animation et a rêvé de Disney et tout ça. Il a monté un studio, le studio Idéfix en France. D'ailleurs, c'était eux qui ont sorti...
Les 12 travaux, exactement.
Et du coup, quand on le voit ému comme ça par ce qui se passe sur un écran, quand il a l'impression de tenir un peu le menton des Américains avec un film qui peut leur répondre sur plein de critères, il est naturellement heureux et moi, je trouve ça super parce que au finish il aurait été un peu déçu, il serait parti moi je l'aurais mal vécu vraiment quoi.
Continue à parler du gros monsieur à couette et du petit moustachu nerveux juste après un morceau que les téléspectateurs d'Energie 12 qualifieraient de
Eh mais c'est le générique à Nikos dans 50 minutes Inside.
Voilà, mais comme on est sur France Inter, ça s'appelle Immigrant Song et c'est Led Zeppelin, évidemment.
Fight the
Led Zeppelin, Immigrant Song, ça fait du bien. Nous sommes en train de discuter avec Alexandre Astier et Louis Clichy de Astérix et le secret de la potion magique qui sort demain sur les écrans et nous allons tous nous précipiter pour le voir. Mais pour, avant cela, il y a une question qui me taraude. Pourquoi Panoramix, le druide, est-il le seul à posséder la potion magique? Pourquoi n'en profite-t-il pas pour sauver tous les Gaulois? Et surtout, ne craint-il pas une révolte de ces Gaulois qui risquent d'enfiler leur gilet jaune pour dénoncer ce monopole et bloquer le village? Réponse de l'auteur Alexandre.
Les Gaulois réfractaires, hein, on en revient à votre début. Ouais. Alors moi, j'ai rien je ne sais pas ce que veut dire réfractaire exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Content, qui refuse, qui refuse l'obstacle.
Et comment on appelle alors la réfraction? C'est bien un truc qui renvoie la lumière,
voir, oui. Ouais, oui, bah, c'est réfractaire, ça renvoie quelque chose aussi. Ça, c'est un refus, quoi.
Ouais. Mmh. Mais à partir de quel moment est-ce que là, en répondant à votre question, vous allez considérer que c'est bon? Et comme ça, j'ai
ah, je d'accord, vous voulez en sortir.
Mais c'est-à-dire qu'on est d'accord que Panoramix, c'est un poil Jupiter quand même, non? Pour le coup.
Bah, j'en sais rien, Panoramix, il est... non, pourquoi voulez-vous... Non, ils vont pas se rebeller, les gars. C'est comme l'arme nucléaire, vous allez pas la filer à tout le monde, sinon vous voyez bien que ça s'annule.
Ça sera le bordel.
Ah bah oui, là en ce moment, c'était... si tout le monde l'a, déjà, elle n'a plus de valeur, enfin en tout cas, pas dissuasive, et puis tout pète. On n'a plus de planète. Et bah la potion magique, c'est pareil. Si jamais tout le monde l'a, tout pète.
D'accord.
Astérix, le secret de la potion magique, c'est avec les voix de Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, Guillaume Briat, celui d'Obélix, mais également Alex Lutz, Elie Semoun, François Morel, Florence Foresti, vous deux, Louis Clichy, vous assurez la voix de Jean-Patrick, c'est vous, Alexandre Astier, vous êtes entre autres Ours en plus.
Oui.
Vous pouvez pas vous empêcher d'être partout en fait.
C'est-à-dire que j'étais là. J'étais dans les
studios. J'étais là, je sais le faire.
Mais c'était une raison économique aussi, parce qu'on avait déjà créé le personnage
exactement.
Dans le premier film.
Et puis il y avait Louis. Louis, il était là aussi. On a dit qui c'est qui va le faire. Il a dit, t'es là, t'es déjà payé pour le truc, toi. Donc,
alors fais-le.
Voilà, petite économie. Plus simple.
Mais comment on fait un bon casting de voix? Est-ce qu'il faut qu'on les reconnaisse ou pas?
Je crois, après je ne sais pas si Louis sera d'accord, je pense que dans un dessin animé en 3D comme ça, qui est très immersif, où on a vraiment les personnages, c'est une vraie différence avec le live où quand même les acteurs, c'est eux, quoi, et puis on ne peut pas vraiment se départir, même s'il y a des fausses moustaches et des faux cheveux, que c'est quand même eux. Là, je trouve que les voix prennent moins de place, même si elles sont très reconnaissables, même si on sait qui c'est, ben en fait je trouve que ça s'équilibre mieux parce que le dessin est fort et parce que le dessin du Derzo est présent et... Voilà, donc moi ça me fait, je pense que je choisis pas comme ça, je choisis les gens avec qui on a envie de bosser, et puis comme c'est les voix d'abord, et qu'on enregistre ça comme une fiction radio, on bosse en tracteur, comme si on faisait une séance de lecture, comme si on était à la table, et puis quand ça sonne bien, on le garde et on anime dessus, quoi.
Mais c'est... d'ailleurs, Alexandre, vous dites que vous ne pouvez écrire les dialogues que si vous savez qui va jouer tel ou tel personnage. En fait, c'est donc le casting qui a aussi influencé l'écriture et non l'inverse?
Non, parce que ça peut, pendant longtemps, ça peut être des personnages un peu génériques, qui je sais ce qu'ils vont faire, machin, mais c'est quand même en sachant qui le fait que le dialogue arrive. Oui. C'est la qualité du dialogue qui vient de comment j'ai envie de faire. Vous, par exemple, je vous fais parler des fois. Je vous donne des textes. Je vous les donne tard, mais je vous les donne.
Très tard.
Voilà. Mais, eh ben, figurez-vous.
Parfois même
que,
après le tournage.
Mais si jamais un jour vous me dites, écoutez, Alexandre Astier, vous m'emmerdez, j'ai pas envie de venir travailler avec vous, je réécrirai vos textes. Je peux pas les donner tels quels ils sont pour vous, ceux-là. Si je peux pas, faire appel à quelqu'un, je prendrai quelqu'un que vous aimez pas, évidemment, mais ça marchera pas comme ça.
Pardon, vous connaissez?
Vous pensez à un personnage en particulier?
Pas en particulier, non.
Non, mais vous parlez de ce personnage que vous m'avez donné à jouer.
Oui, oui, non, mais je parlais de ça ou d'autres choses.
Il a un avenir proche, il a...
il a un passé déjà, donc... Passé, oui, mais vous en demandez toujours plus.
Tout le monde se demande.
Et tout fait vous avec vos pop-corns.
Il semble que vous êtes prêts à livrer des informations, allez-y, c'est
absolument pas.
Pas du tout, d'accord. Alexandre Astier, dans les choix des noms de l'Astérix, je crois que vous êtes particulièrement fier du nom de Tom Cruise, l'émissaire de César.
Ben, il nous a résisté celui-là. Hein.
Comment ça, il vous a résisté?
Parce qu'on essayait de trouver
un nom pour ça. De vanne. On n'avait pas une vanne drôle.
Non.
Mais
On en a cherché.
Ni Alexandre ni moi, on est fan. Disons qu'on met du temps à trouver.
On n'est pas hyper calembour, quoi.
On n'est pas bon.
Ouais. Et j'en avais marre, en fait, de ne pas le trouver, lui. Et je suis fier de celui-là parce que je l'ai trouvé parce que j'en avais marre. ça devait être Pélénope Cruz, d'ailleurs, avant d'être Tom Cruise, mais ça, finalement, c'était Tom Cruise. C'était plus simple.
Ah oui, c'est pas un exercice qui vous amuse, les choix des noms comme ça.
Non, les calembours.
On imaginait ça comme un truc
déjà ça n'a de valeur qu'en France, ça peut pas passer les frontières, c'est anecdotique, j'ai jamais aimé les jeux de mots, voilà, mais après je le fais volontiers quand là c'est rigolo parce que c'est un nom, mais je suis pas voilà.
Alexandre, dans la vie, vous êtes producteur, auteur, acteur, réalisateur, compositeur, monteur, maquilleur, costumeur. Louis Clichy, c'est agréable de travailler avec Alexandre Astier. Vous aimez son goût du partage, sa propension à déléguer comme ça.
Comme il est ici, je ne peux pas trop parler de manière tout à fait honnête. Alors l'avantage, c'est que il connaît pas l'animation, donc il est battu.
Laisse-moi un nom.
Il va s'y mettre.
Non, c'est
allez,
sûr.
Pas
non,
me provoquer.
Plus, il pourrait s'y mettre. Il commence déjà à dessiner. Il me demande toujours des trucs d'indication pour dessiner. Ça a été par moments durs parce que je pense qu'on a tous les deux, et lui peut-être un peu plus que moi, je ne sais pas, des caractères.
Des petits caractères.
Mais voilà, après les choses étaient assez établies. Puis on s'est quand même un peu, on s'est reniflé un peu sur le premier film. Mm-hmm. Sur celui-là, on savait à peu près là où on était compétents l'un l'autre. Et puis quand on est compétents tous les deux, on discute,
on s'engueule. Voilà. Mais on s'engueule pour le bien du bébé. Ça, c'est important. Oui, c'est toujours... Vous voyez ce que je veux dire? Toute notre énergie d'engueulade, ça passe
fertile.
On a envie que ce bébé aille bien.
Continuez longtemps à vous engueuler, le bébé est plus que réussi. Merci Alexandre Astier, Louis Clichy, Astérix, le secret de la potion magique, c'est à retrouver en DVD. Je vous promettais un live en début d'émission, et bien c'est le moment, le groupe Canine vient de s'installer sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Mesdemoiselles, êtes-vous prête? Après mon pop, c'est à vous.
Oui, oui. The forest dark, but the moon is clear. My feet move, I fly silently. I know my aim, the night's game. All the shame it can harbor. And now research breathing the sweet heat. From wrapping myself, supporting my feet, I raise my head, love a chain. Then I proclaim our new
I know that despondency is so close.
Twin Shadow, cet extrait de Dune, votre premier album Canine qui est sorti aujourd'hui et que j'ai passé la journée à écouter en boucle.
Je le confirme.
Vous poussez l'anonymat et la confusion sur scène en jouant et chantant avec un masque à plumes, accompagné de 14 chorégraphes et musiciennes. Entre parenthèses, vous appelez ça une meute. Vous auriez pu vous contenter d'un loup.
C'est excellent. D'accord. Je l'ai, alors, ça y est.
Oui.
J'ai pas compris, mais
si, à la place
loup.
Du masque à plumes.
Ah oui.
Un loup, la meute. Oui, bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept?
Le concept de
jouer
avec le masque.
Oui, avec le masque, avec dans cet anonymat, dans cette notion de collectif.
Eh bien, dans le masque, en fait, ce qui me plaisait, c'était aussi de redonner à la musique une part de sacralisation et de retrouver. C'est pour ça aussi dans l'animalité quelque chose d'un peu primaire qu'on a un peu perdu, je trouve. Et le masque remet tout de suite un truc un peu magique. Donc voilà pourquoi le masque sur scène.
Est-ce qu'on peut voir ça aussi un peu dans l'idée comme l'envie de rester un peu planqué ou peut-être aussi, comme on le disait en début d'émission, d'interroger la notion de genre au sens large et au pluriel ?
Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai la sensation quand je chante sur scène que je suis pas ni une femme ni un homme. J'ai plutôt la sensation que les voix même de mes musiciennes ou des instrumentistes sont plus des entités, des énergies, des vibrations. Donc c'est vrai que le masque, ça permet aussi de revenir à quelque chose qui est plus non-genré, quoi. Oui.
Mais vous entretenez justement le mystère d'une voix assez androgyne, une voix qui n'a pas de sexe. Vous vous retrouvez donc dans ce que disait tout à l'heure Rouge Marie à propos des étiquettes.
Alors à propos des étiquettes, je sais pas trop. Après moi, c'est vrai que le travail que je fais sur ma voix, une fois que il est fait, je l'écoute et je me dis effectivement qu'on a la sensation qu'il n'a pas de genre. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le travail du son, ça va vraiment être l'émotion. Donc c'est plus une conséquence, je pense, le fait qu'il n'ait pas de genre. La base du truc, c'est d'essayer d'avoir une voix assez pure pour provoquer une émotion comme une entité. Voilà.
Votre musique a parfois la tonalité des musiques religieuses, j'entends par là l'amplitude, une sorte de ferveur, et pourtant vous êtes farouchement anticlérical au point de vous décrire, je cite, comme une bouffeuse de curé. Comment expliquer cet attelage très étrange ?
C'est pas moi qui l'ai dit, que c'est complètement faux. Non, parce que justement, moi, ça, il me semble vraiment hyper important de retrouver une spiritualité et de pas la laisser effectivement aux mains de religions qui, en plus, en tant que femme, forcément, j'ai pas la sensation d'être hyper bien représentée ni défendue par les religions que nous connaissons. Je vais me faire beaucoup d'amis, mais c'est pas grave. par contre, effectivement, tout ce qui est sacralisé, l'invisible, la spiritualité, le mysticisme, j'ai pas du tout envie de le laisser à eux. Moi, je le ressens beaucoup, et dans la musique particulièrement. Et dans le féminin aussi, d'ailleurs.
Canine, à quel moment écoutez-vous ça ?
Parler maintenant.
Allez-y.
C'est beau, hein ?
Je peins, bien sûr.
Bien sûr. J'écoute tous les matins, après mon thé vert et mon citron pressé, si vous voulez tout savoir.
Je veux tout savoir.
Et je fais mon yoga dessus. Donc, je commence par des salutations au soleil, quelques chiens museaux vers le sol, puis des postures debout. Et ensuite, je coupe pour faire une petite méditation. Mais depuis que je suis petite, en fait, quand j'étais au conservatoire, je faisais de la danse et on faisait notre bar classique sur les nocturnes de Chopin. Donc ça me suit depuis que j'ai 5 ans, quoi.
Bien. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus et Sonia Leglen, à la réalisation, à la technique Loïc Frapsos, Aurélien Esventre, rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Demain, je fais passer Laurent Lafitte, Pierre Richard et Edge Burns dans mon mixeur de pop culture.